Sefer Shemot. On peut redire un petit peu ce que j'avais dit sur Vayakhel, que on va retrouver dans cette paracha beaucoup des choses qui ont déjà été dites dans Troumat, Tetzaveh, Kitissa. Mais c'est plutôt le bilan, en quelque sorte. Et déjà, le premier passouk pose déjà beaucoup de problèmes. Alors, on va d'abord regarder ce fameux premier problème, premier passouk. Elef Kudei Amishkan, Mishkan Aedut, Asher Pukad Alpi Moshe, Vodat Alvim Beyadi Tamar Ben Aaron HaKohen. Donc, le passouk, Elef Fekudei Amishkan, Mishkan Haedut. Voici donc les comptes, MPT donc, les comptes du Mishkan, Mishkan de témoignage. Mishkan, c'est donc le fameux tabernacle, le fameux Mikdash portatif, en fait, que les Bnei Israël ont transporté avec eux durant les 40 ans du désert. Et ce Mishkan, il est ce dont on a parlé au tout début. Hachem avait donné l'ordre, va soulim Mikdash veshachanti betocham. Donner l'ordre au Bnei Israël de me faire un Mikdash Veshachanti Betocham. Mikdash et puis Shachanti, qui est la Shon Mishkan. Alors, le début de ce pasouk avec cette redondance Mishkan, Mishkan Haedut. Donc, il faut comprendre pourquoi c'est marqué deux fois Mishkan, pourquoi le Mishkan s'appelle Mishkan Haedut. Il y a un Midrash. Era Kadosh Baruch Hu, a Torah, va Geinom, va Korbanot, ou Galuyot, à Avram Avinu. Kadosh Baruch Hu a montré à Avram Avinu la Torah, mais aussi le Geinom, les Korbanot, les Galuyot, enfin tout montré. Amar Kadosh Baruch Hu kol yamim sheyu banecha asukim batorah u bekorbanot, tout le temps, les jours où tes enfants seront occupés à la Torah et aux Korbanot, hem nitzulim mehem, ils seront sauvés EX. Et là, atidim banecha levatel la korbanot. Seulement le problème, c'est que tes enfants vont annuler les korbanot. Levatel la korbanot. Vele pekude amishkan mishkan haedut. Mahu haedut, que ça veut dire témoignage de quoi? Chez Kolzman, chez Israël, oskim batora ou bakorbanot, te edut lahem sheinam yordim le geinom. Le Mishkan, tant que les Bnei Israël s'occuperont de Torah et des korbanot, alors ce Mishkan sera un témoignage de ce que les Bnei Israël ne descendent pas dans le geinom. Bon, alors il y a beaucoup de choses étranges dans ce Midrash. Qu'est-ce que la Torah a à voir avec le Geinom? Qu'est-ce que cette relation Torah-Geinom a à voir avec, avec le Mishkan, avec les Korbanot dont on parle dans notre paracha? Et qu'est-ce que ça veut dire « Atidim banecha levatel akorbanot » tes enfants, dans le futur, ils vont annuler les corbanotes. Est-ce que c'est les Bnei Israël qui ont annulé les corbanotes? Le Beth Amikdash a été détruit, donc les Bnei Israël ne pouvaient pas approcher les corbanotes. Donc, l'annulation des corbanotes, ça n'est pas fait du côté des Bnei Israël. Ça cause du Khurban Abayit, cause de la destruction du Beth Amikdash. Bon, il y a un peu d'autres versions qui, elles, seraient peut-être moins problématiques. Et il faut venir sur le double langage Mishkan, Mishkan, Aedut. Le double Mishkan, Mishkan. Est-ce que ça vient nous dire cette répétition de mot Mishkan? Rashi avait dit Shnei Pe'amim, deux fois, c'est un remez. Ça fait allusion à la Mikdash chez Nitmashken, le Shnei Khurbanin à la Banotem chez l'Israël. C'est-à-dire, le mot Mishkan, il est visiblement apparenté au mot Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Prendre quelque chose en gage. Et le Chazal disent que la destruction des Batei Mikdash, c'est pas qu'il n'existe rien, plus rien, ils ont complètement disparu. C'est que, bon, les coquilles vides ont été détruites, mais la notion de Batei Mikdash, elle est en quelque sorte en gage. Hachem la garde. Sous le coude, en quelque sorte. Mais bon, c'est une lecture, c'est la lecture de Rashi, c'est pas la lecture de notre Midrash. On a dit que le Mikdash, le Mishkan s'appelle aussi Mikdash. Pour nous, Mikdash, c'est plutôt les Batei Mikdashot. Ça veut dire, c'est les deux Batei Mikdash qui ont été construits. Donc, le premier par Shlomo HaMelech et le deuxième avec, sous la direction d'Ezra, disons. Le deuxième, il est pas vrai Batei Mikdash au sens habituel du terme. C'est une espèce de copie un peu pâle du premier. Donc, quand on veut réfléchir sur le Batei Mikdash, on doit réfléchir sur le premier. Le premier Beth Amikdash, il a été construit par Shlomo HaMelech. Alors, c'est une idée de David HaMelech qui a mis de côté tous les matériaux nécessaires et c'est son fils Shlomo qui a construit. Donc, on peut comparer deux moments. Notre moment ici, qui est la fin de la construction du Mishkan, et puis la fin de la construction du Beth Amikdash. Dans le Parchat Shemini, on verra que les Bnei Israël ont apporté à l'inauguration du Mishkan, ils ont apporté quelques korbanot, pas beaucoup. Aaron Hashem a dit Kach lecha Egel ben Bakar lechatat ve'ayin leola. Aaron, en tant que Kohen Gadol, il doit apporter deux korbanot, un veau et un bélier. Et les Bnei Israël, eux, ils doivent apporter un bouc et ensuite un veau et un agneau. Puis ensuite, un taureau et un bélier. et même les korbanot que les Nessim vont apporter à Chanukat HaMizbeach, on verra ça dans le Sefer Bamidbar, les Nessim, là aussi ils ont apporté relativement, ils ont apporté les korbanot, mais pas des quantités astronomiques. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé à la fin de la construction du Beit HaMikdash, alors dans Sefer Melachim, on rapporte que Shlomo HaMelech, il a approché les korbanot en un nombre absolument incroyable. Il y avait 22 000 taureaux, gros bétail donc, et 120 000 petits bétails. Sans commune mesure. Et il y a encore une grande différence, c'est que les paroles qui ont été prononcées au moment de, à ces moments de, on a terminé, on a inauguré le Mishkan et le Beit HaMikdash, qu'on a terminé la construction du Mishkan, la prière, c'était la prière de Moshe Rabbeinu, qui était une prière très concise. Moshe Rabbeinu a dit, Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu, Umase Yadeinu Konno Aleinu, Umase Yadeinu Konneu. Et il a dit, Yeratzon Shetishre Shrina Bansi Yedechem. Que ce soit la volonté d'Hachem que la Shrina réside dans l'œuvre de vos mains. Alors que, quand on a terminé de construire le Beit HaMikdash, alors Shlomo HaMelech a fait une très longue tfila, Hashem Elokeinu Imanu, etc., Leatot Levaveinu Elav, que notre cœur penche vers lui, la Lechet Chodrachav, Ishmor Mitzvotav, Chukav, Mishpatav, Asher Sivat et Avotenu, etc., Vaya Levavam Shalem, Im Hashem Elokeinu. Et donc on peut se demander pourquoi cette différence de traitement entre le Mishkan et le Beit HaMikdash. Shlomo HaMelech, au moment de la destruction, de la fin de la construction du Beit HaMikdash, il a prié, et dans sa prière, il a demandé Lehatot Levaveinu Elav. Il a demandé à Hachem de faire en sorte que le cœur du peuple penche vers Hachem. Moshe Rabbeinu n'a rien demandé de tel. Quand Chazal se sont arrêtés sur ce double Mishkan, ils ont dit que, comme Rashi l'a ramené, ça faisait allusion à la destruction des deux Beit HaMikdash qui ont été pris en gage, dit Mashkan, dit Mashkenu, donc deux fois. Bon, ça c'est Rashi. On peut essayer d'expliquer un petit peu différemment. Rapporter ici une lecture proposée par Rav David Hofstetter, le fondateur du mouvement, enfin de système d'Hirschou, propose de lire de la manière suivante. La Torah, elle vient nous enseigner ici sur le fait que ce redoublement du mot Mishkan, il vient dire qu'il y a deux fonctions dans le Mishkan. C'est-à-dire, bien entendu, dans le Mishkan, on va apporter les korbanot. Donc, c'est le lieu de la avoda, etc. Mais aussi que ce sera le lieu de la résidence de la Torah, d'une certaine manière. Et ça, on l'entend dans Mishkan Haedut. Vous vous souvenez qu'on avait, en son temps, on avait parlé de pourquoi les Luchot s'appellent Luchot Haedut. Pourquoi les fameuses tables s'appellent tables de témoignage. Ça veut dire que le Mishkan, dire qu'il est Mishkan Haedut, c'est la résidence du témoignage. C'est-à-dire la résidence du Aaron qui contient les Luchot, qui sont les Luchot de témoignage. C'est-à-dire, ce sont les Luchot sur lesquels les Aseret Adibrot qui ont été dites sont inscrites. Donc elles témoignent de ce dire, le fait que les Israël ont entendu les Aseret Adibrot. La Torah est un témoignage du don de la Torah, si on peut parler comme ça. Mais il y a un peu plus que ça. On a vu déjà que quand Hachem parlait à Moshe Rabbeinu, il lui parle, vous vous souvenez, il parle de telle sorte que la voix semble provenir d'entre les Krouvim. C'est-à-dire entre les deux chérubins, c'est-à-dire la voix, elle semble venir du couvercle du Aaron, sur lequel il y a les deux Krouvim. C'est comme ça que ça a l'air de se passer. Donc, ça veut dire que la Torah, elle émane, en quelque sorte, du Mishkan. L'essentiel dans le Mishkan, c'est le Aaron, et du Aaron émane la Torah. Il y a un Chazal qui dit « Kol mitzvot ha-Torah nitztavu Israël be-Mishkan » Toutes les mitzvot de la Torah, Israël les a reçues du Mishkan, mais « al Aaron ha-Edut » ça vient d'au-dessus du Aaron. Donc la boîte, l'aron, c'est l'arche qu'on appelle, la boîte dans laquelle se trouvent les luchot. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans le pasouk. Le pasouk dit « Ubeva, ubevo, Moshe, Elohel, Moed, le daberito » Quand Moshe venait dans le Elohel, Moed, dans le Mishkan, pour parler avec Hachem, alors il a entendu « Et akol midaber elav » une voix qui semblait lui parler à lui. Et kol mitzvot haTorah shima shama Moshe Rabbein Moshe mimishkan. Et Moshe, ce qu'il a reçu du Mishkan, la Torah qu'il a reçue, il a ensuite ordonné, transmis au Bnei Israël. Donc, d'après ça, Mishkan, Mishkan Haedut, ça vient faire allusion aux deux fonctions du Mishkan. Pekudea Mishkan, on fait les comptes du Mishkan. Ça correspond aux mitzvot, puisque c'est Vous vous souvenez que dans la Torah, il est écrit que l'otase kol melacha. Le septième jour, après que pendant six jours tu aies fait tout ton travail, le septième jour tu feras aucune melacha. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de melacha? Qui cherchait yamim? Parce que pendant six jours Hachem a créé shamayim va'aretz, etc. Et le septième jour, il a chômé. Et donc nous faisons la même chose. Et maintenant, le problème qu'on avait, c'est que la Torah, elle dit qu'il ne faut pas faire de melacha, mais elle ne nous définit ni, enfin, elle ne définit pas ce que c'est qu'une melacha. Et on ne sait donc pas non plus combien il y a de melachot. On ne sait pas non plus est-ce que on est chayav si on les fait toutes, ou bien si on est chayav sur chacune d'entre elles. Et a priori, sur chacune, sur les mitzvot, les melachot de Shabbat, si on les transgresse, si on les fait, on est passible de mort. Mais le seul exemple d'une melacha de Shabbat qui nous est donné, c'est l'ot va'arouesh bechol moshvotechem, c'est vous ne brûlerez pas, vous ne ferez pas de feu dans vos résidences. Et c'est un lave, l'ot va'arouesh, c'est pas marqué. Donc là, il y a toute une discussion pour savoir est-ce que cette mitzvah-là, c'est la seule des 39 sur lequel il n'y a pas de chiyuv mita, il n'y a pas de peine de mort en cas de transgression. Ou bien est-ce que elle vient, cette mitzvah, nous dire que, cette melacha, pardon, nous dire que la transgression d'une seule des melachot est déjà suffisante pour représenter un chiloul de Shabbat et donc entraîner la mort. Sinon, on aurait pu penser, comme je vous ai dit, que ce n'est que quand on fait toutes les melachot qu'on est chayav. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait ce que sont les melachot? Eh bien, et ça vient de la juxtaposition du Mishkan, de la parasha du Mishkan, et là, juste avant, il y a ces psukim qui parlent de Shabbat. Et donc, les melachot de Shabbat, c'est de ça qu'on parle, eh bien, regarde dans le Mishkan pour savoir quels sont les melachot. Alors, les Chachamim ont extrait, disons, des melachot qui ont servi à construire le Mishkan. Ils en ont distingué 39. Et ce sont ces travaux qui sont les travaux de construction du Mishkan. Mais on sait bien que construire le Mishkan, c'est construire le monde. Donc, les travaux qui construisent le monde, ce sont justement ceux qui ont servi à la construction du Mishkan, puisque le Mishkan, c'est un mini-monde. Donc, c'est comme ça qu'on sait. Donc, on a appris tout ça, de toute la construction du Mishkan, des psukim de la construction du Mishkan. On a appris qu'il y en avait 39, et on a appris la liste de ces melachot. Et donc, Pekudei HaMishkan, les comptes du Mishkan, donc c'est vraiment aussi la liste des melachot et tout, ça correspond aux mitzvot du Mishkan, mais dans les mitzvot du Mishkan lui-même, c'est Akravat HaKorbanot, c'est le fait d'approcher des korbanot. Et aussi Mishkan HaEdut, parce qu'il est la résidence de la Torah. On comprend maintenant pourquoi le nombre de korbanot que les Bnei Israël ont approché à l'inauguration du Mishkan est largement inférieur au nombre de korbanot qu'ils ont approché à l'inauguration du Beit HaMikdash. Pourquoi? Parce que on vient de voir que Mishkan, c'est Mishkan, Mishkan. Mais Bet HaMikdash, ce n'est pas Bet HaMikdash, Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash n'a qu'une seule fonction. Le Bet HaMikdash, il sert à y faire des korbanot. De toute manière, à l'époque de la construction du Mishkan, du Bet HaMikdash, pardon, on ne recevait plus la Torah directement d'Hachem. À la mort de Moshe, cette façon d'accéder à la Torah a disparu. À ce moment-là, on n'a plus comme façon d'accéder à la Torah que la Torah écrite et le travail de la Torah orale. Et donc, il n'y a que les korbanot dans la construction dans le Bet HaMikdash. Et par conséquent, puisque c'est ça, alors à l'inauguration, il y a eu korbanot à foison. Par contre, dans l'inauguration du Mishkan, korbanot, c'était un des aspects. Un autre aspect qui est l'étude de la Torah. Et donc, il y a beaucoup moins de korbanot, parce que ce n'est pas l'essentiel. Même chose pour la prière de Shlomo HaMelech. Parce qu'effectivement, il y a une différence entre le limoud de la Torah, l'étude de la Torah, et la kravata korbanot, l'approche des korbanot. Concernant la différence, c'est qui nous intéresse ici, c'est l'impact que chacune de ces deux choses a sur l'homme. Quand on étudie la Torah, il y a la Torah qui est étudiée, mais il y a un impact de la Torah sur nous. Quand on approche des korbanot, il y a un impact des korbanot sur nous. Mais le limoud à Torah, l'impact du limoud à Torah, l'impact de l'étude de la Torah, c'est de modeler, de modifier, d'agrandir, etc., le sechel, l'esprit, le cerveau de l'homme. Parce qu'avec les efforts, la régularité de l'étude, etc., le sechel de l'homme devient, il se purifie, il atteint vraiment un degré de purification. D'un autre côté, la avoda des korbanot, le travail avec les korbanot, ça a un effet sur le ratson, les shiifot de l'homme, c'est-à-dire sur la volonté, sur les désirs de l'homme. Il s'agit, avec le travail sur les korbanot, d'arriver à sanctifier en quelque sorte ses désirs, ses volontés de l'homme, pour les mettre entièrement au service d'Hachem. Donc, puisque dans le Mishkan, la Hashpa'a, l'impact, était complet, parce que grâce à la Torah et grâce aux korbanot, alors on n'avait pas besoin d'une tefila très longue. On n'avait pas non plus besoin d'une tefila qui demande à Hachem de nous pousser notre cœur à pencher du bon côté. Pas demander que le peuple serve Hachem Belev Shalem au moment du Mishkan. Par contre, au moment de l'inauguration du Mikdash, donc là-bas il s'agissait de l'avoda des korbanot, mais bien sûr, c'était pas l'endroit du don de la Torah, le Bet HaMikdash. Alors, Shlomo a prié pour qu'effectivement il y ait atayat lev haadam, lev haam, pardon, que le cœur du peuple penche du bon côté, penche vers le service d'Hachem, qu'on fasse le service d'Hachem lev shalem, en d'autres termes. Revenir maintenant sur le midrash qui dit Atidim banecha levatel akorbanot. Bon. Abraham, Hachem lui a dit, tes enfants, ils vont annuler les korbanot. Alors, il est bien clair qu'il ne s'agit pas ici de décision d'Ebn Israël de ne plus approcher de korbanot. En fait, concrètement, tant que le Beth Amikdash était là, à l'intérieur du Beth Amikdash, la avodah se faisait comme elle devait être faite. On a apporté tous les korbanot qui devaient être apportés. On a aspergé, on a fait tout ce qu'il fallait faire à l'intérieur du Beth Amikdash jusqu'au tout dernier jour de la vie du Beth Amikdash. Des Beth Amikdash d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on allait annuler les korbanot? C'est qu'en fait, les korbanot, ça n'a aucun pouvoir. Si ce n'est que ces korbanot sont approchés avec la kavana, avec l'intention de servir Hachem. Mais si ce sont des gestes purement techniques qu'on fait parce qu'on est dans un endroit où ces gestes doivent être faits. Alors, ces gestes, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de... C'est tout. D'une certaine manière, c'est comme si on avait réduit certains actes à des actes de quasiment de boucherie, quoi. Pas ce shalom. Bon, parce que s'il n'y a plus de kavana, alors c'est quoi? Tu égorger un animal, le dépecer, brûler une partie et manger l'autre partie, ou bien brûler tout, etc., asperger. Des gestes techniques, effectivement, et qui n'ont aucun impact par eux-mêmes. C'est pas, les mitzvot d'Hachem, j'ai déjà dit souvent qu'il faut toujours se rappeler qu'une mitzvah, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un rapport entre le metsavé et le metsouvé. La mitzvah, elle va du metsavé vers le metsouvé, sous forme d'un tzivouï, sous forme d'un ordre, et ensuite elle va du metsouvé vers le metsavé, sous forme de l'accomplissement de cet ordre. Donc c'est cette boucle-là, avec ces kavanot-là, la kavana de recevoir les choses en tant que metsouvé, en tant que quelque chose que je reçois du metsavé et que je me mets dans la posture du metsouvé. Bon, parce que les mitzvot, évidemment, elles sont données par Hachem, mais il faut qu'il y ait quelqu'un à la réception. S'il n'y a personne à la réception, Hachem ne donne pas. Je ne vais pas donner des mitzvot si on ne les fait pas.
Excusez-moi, vous pouvez introduction. Metsavé.
Pardon.
Des deux intervenants. Est-ce que vous pouvez la traduction des deux intervenants?
Le metsavé, c'est celui qui donne l'ordre. Le metsouvé, c'est celui qui le reçoit. Et la mitzvah, c'est justement le geste qui est prescrit. Entre nous. Ça s'écrit de la même manière. Metsavé, metsouvé, mitzvah, c'est toujours même tzadik, vev, vav, hey. C'est tout.
Voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas. D'accord. Merci, Rab. Je
t'en prie. Alors, c'est ça qu'on a dit. Atidim b'nei Israël, banecha, levatel, le korbanot. Les korbanot n'étaient plus des korbanot parce qu'ils n'approchaient rien du tout. Un korban, c'est pas fait. C'est quelque chose qu'on approche pour s'approcher d'Hachem. Ils ne s'approchaient rien du tout. Il n'y avait pas du tout d'intention de s'approcher par ce biais-là. C'était ça le but des korbanot, et ce but-là a été oublié, annulé. Donc il n'y avait plus de korbanot, c'était plus des korbanot. Il y avait des bêtes dont on a fait la shrita, et sur lesquelles qu'on a travaillé, si on peut parler comme ça, mais c'est tout, c'était plus des mitzvot, c'était plus des korbanot. Dans le limud haTorah, marqué dans le Yalkut aussi, Atida Torah li batel. La Torah, elle va être aussi betela. Ou beta migdash le charev. Le beta migdash va être détruit. Bien qu'avant que le beta migdash soit détruit, les Bnei Israël se sont occupés de Torah. Mais ils ne se sont pas occupés de Torah de sorte que la Torah ait un impact sur eux. Comme ils n'ont pas donné à la Torah la possibilité d'être mashpia, d'envoyer un flux, nous transformant. La Gemara, elle dit sur le Pasouk, sur la question que va être posée Alma Avda Haaretz, pourquoi est-ce qu'on a perdu la terre, pourquoi est-ce qu'on a été exilé, on a perdu la terre, Al Osvam et Torahati, parce que les Bnei Israël ont abandonné ma Torah d'Hachem. Ça veut dire qu'ils ont abandonné la Torah, ils ont étudié pourtant. Chazal disent oui, mais quand ils étudiaient la Torah, ils ne faisaient pas de bracha de Birkas Torah, ils ne faisaient pas. Pourquoi? Le Ran explique au nom de Rabbeinu Yonah que ça veut dire Shelo haita Torah chashuva b'neim. La Torah n'était pas quelque chose d'important à leurs yeux, pas suffisamment important pour que ça vaille la peine de faire une bracha sur la Torah. Parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah lishma, c'est-à-dire lishma, ça veut dire pour elle-même. Et du coup, ils étaient mezalzlim, du coup, ils méprisaient complètement et ils négligeaient les brachot, la bracha sur. Donc, ils montraient que la Torah, bon, c'était intéressant, mais on ne va pas faire une bracha là-dessus. C'est ça qu'Hachem a dit quand le travail sur le Mishkan a été terminé. Hachem a dit Bishrut, à Torah et à Korbanot, c'est-à-dire les deux choses que, pour lesquelles le Mishkan a été construit. Par ce mérite-là, c'est-à-dire qu'on va faire ces deux choses pour lesquelles le Mishkan a été construit, Nitzulim Israël min hageinom. Grâce à ça, les Bnei Israël vont échapper au Geinom. Parce que c'est les deux choses essentielles du Mishkan. Et donc, ce sont les choses qui vont faire vivre le clan Israël. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a ni Mishkan ni Mikdash. Et comme Chazal disent, à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui lui reste, c'est Arba Amot Shel Halakha. Donc, c'est la raison pour laquelle il s'agit de s'approcher d'Hachem. Et le chemin pour s'approcher d'Hachem, c'est l'étude de la Torah, de la bonne manière. avec la bonne kavana, avec les bonnes intentions, c'est-à-dire le Shem Shamaim, de telle sorte que grâce à cela, on se retrouve proche d'Hachem et faisant sa volonté. Voilà une petite chose que je voulais dire sur pour apporter sur ce début de. Ensuite, je voulais dire quelques mots sur le problème du masque de Moshe Rabbeinu, plus exactement du rayonnement du visage de Moshe Rabbeinu. Karan Or Palnav. La peau du visage de Moshe Rabbeinu rayonnait. Alors d'abord, il faut dire que cette histoire d'un visage qui rayonne, c'est pas, il ne faut pas entendre qu'il n'y a que chez Moshe Rabbeinu que le visage rayonnait. Il y a même aujourd'hui encore des grands maîtres dont le visage rayonne. Le visage rayonne grâce à la Torah qu'ils ont étudiée, mais aussi grâce aux midot qu'ils ont développées par l'étude de la Torah. Parce que, comme dit le Gaon, si ce n'est pas pour améliorer tes midot, qu'est-ce que tu fais dans le monde? Il ne répond pas, on est là pour étudier la Torah, point barre. On est là pour améliorer nos midot. Un des moyens qu'on a, c'est l'étude de la Torah. Alors, il y a un midrash intéressant à ce sujet qui demande justement, mais d'où venait ce rayonnement du visage de Moshe? Et le midrash dit, ça vient du reste d'encre dans la plume de Moshe. Bon. D'abord, c'est quoi la plume de Moshe? Que Moshe a écrit quelque chose? Et il y avait de l'encre? Et quoi, une goutte d'encre, ça fait rayonner le visage? C'est pourri, bientôt vous pouvez essayer. Le Beit HaLevi, il explique ce chazal. Mais avant d'expliquer ce chazal, il dit quelques mots sur les Haggadot, sur la façon de lire les Haggadot. Il dit qu'il y a trois façons de lire les Haggadot. Que ce soit les Haggadot du Chasse ou le Midrash, etc. Il y a ceux qui pensent qu'il faut les lire et les prendre au pied de la lettre. Il y a ceux qui pensent que ce sont que des superstitions, des bêtises, et il ne faut pas s'en occuper. Et il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, mais que ça veut dire des choses, il faut aller chercher, essayer d'interpréter ce que ça vient nous dire. Et donc, il explique le Midrash sur Karan Or Panav. Alors, on peut poser une première question, c'est pourquoi est-ce que le visage de Moshe ne rayonne qu'avec les deuxièmes luchot? Pourquoi le visage de Moshe ne rayonnait-il pas quand il est descendu de la montagne avec les premières luchot? Peut-être qu'il ne faut pas répondre, c'est parce que Moshe savait sans savoir exactement que le veau d'or était en train de se faire. Peut-être que c'est une réponse. Beit HaLevi donne une autre réponse. Et la différence, les premières loukhot et les deuxièmes, c'est que dans les premières loukhot, tout était écrit sur les loukhot. C'est marqué dans la Torah que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, après la faute, quand il a pardonné, il lui a dit, tu tailles-toi des pierres et tu les présentes, et moi je graverai les, j'écrirai sur les pierres, avec Etzba Elohim, avec le doigt d'Elohim, je graverai dans la pierre ce qui était écrit dans les premières loukhot. Or, Chazal disent que il y avait des choses dans les premières loukhot qu'on n'a pas retrouvées dans les deuxièmes. Et pourtant, Hachem a dit que c'était la même chose. Alors, d'abord, il faut expliquer. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur les premières loukhot? Il y avait écrit ce concert, Anochi, etc. Et sur ces loukhot-là, toute la Torah orale était écrite. Toute la Torah orale, dont on dit par ailleurs que toute cette Torah orale, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu au Sinaï, y compris ce que n'importe quel élève va dire, ou a dit et va dire jusqu'au temps messianique. Tout ça, ça a été confié à Moshe Rabbeinu. Et bien entendu, vous allez me dire, alors pourquoi Moshe Rabbeinu ne comprenait rien quand il était à l'école de Rabbi Akiva? Alors, je dirais, ce n'est pas le Benet Beit HaLevi, je dirais, moi, je me suis expliqué les choses en disant que ce que Moshe Rabbeinu a reçu dans la Torah chez Balpé, la Torah orale, il a reçu toute la Torah orale, mais un peu comme un éventail qu'on aurait refermé. Alors, tout y est. Mais pour le voir vraiment, il faut déployer complètement l'éventail. Que ceci soit un processus inhérent, si vous voulez, d'une certaine manière, au don de la Torah, cette idée qu'il y a les choses compactes et puis ensuite on les déploie, ça, on l'a déjà vu au Shiur, on a expliqué ça comme ça, au Shiur de Yitro. On avait vu que, avant les Aseret HaDibrot, il y a un pasouk qui dit que Hachem a dit les Aseret HaDibrot toutes ensemble. Toutes ensemble. Mais de telle sorte que personne ne peut rien y comprendre. Et alors, on s'était demandé, mais si ça sert à rien, puisque la Torah, elle est faite pour qu'on comprenne quelque chose. Donner une Torah où on ne comprend rien du tout, ça sert à quoi? Alors, en vérité, Hachem, ensuite, a déployé la Torah. Ces 10 paroles qui étaient dites de façon compacte, toutes ensemble. Ensuite, il a ouvert l'éventail, si vous voulez. Il nous les a données les unes après les autres, les 10 unes après les autres. Alors, à quoi servait-il de nous les donner de façon compacte? Pour justement montrer que c'était, que ça forme un tout. Qu'on ne peut pas faire son marché dans la Aseret HaDibrot. Je prends celle-là, mais pas celle-là, et je remplace. Ça. On ne peut pas. Ça forme un tout. Et on avait dit que c'est très important parce que ça nous oblige à réfléchir à l'impact de chacune de ces paroles sur chacune d'entre elles. C'est-à-dire, prendre un exemple, il ne faut pas s'imaginer que le lot tirtzach de la Torah n'a quoi que ce soit à voir avec le tu ne tueras pas de tous les codes pénaux. c'est autre chose. Parce que tu ne peux pas comprendre l'Otirtsakh si tu ne comprends pas qu'il fait équipe, en quelque sorte, avec Shabbat, avec Kibbout Va'am Va'em, avec Anochi. Donc, et ça donne une dimension complètement différente au Lotirtsakh. Mais à l'inverse, le Shabbat, il faut l'entendre aussi enrichi par ce que va lui donner son contact avec le Lotirtsakh, avec l'Otinaf, avec Kibbout Va'am, etc. Donc, il y a tout un travail à faire dans lequel on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Et que quand les goïms ont pris les fameux 10 commandements, comme ils disent, dans lesquels ils ont fait leur choix, ils en ont enlevé, ils n'avaient pas envie d'avoir un Shabbat ou des choses comme ça, alors ils l'ont enlevé, puis ils se sont remplacés par autre chose. Ça n'a plus rien à voir. La Aseret HaDibrot forme un tout. C'est ça qu'Hachem voulait dire quand il nous les a données toutes ensemble, pour savoir que on ne peut pas les comprendre si on s'imagine les analyser chacune d'entre elles séparément. Toute la Torah orale était d'une certaine manière gravée aussi dans les 10 paroles en question, puisque on nous dit que ce qui était écrit, Hachem l'a reporté sur les, il a réécrit la même chose sur les deuxièmes. Bon, dans les deuxièmes, c'est clair qu'il n'y avait pas tout ça. Comment ça veut dire? Ça veut dire que probablement dans la gravure des dix commandements de la première, des premières louchot, des dix paroles des premières louchot, dans l'épaisseur de la gravure ou dans la gravure, en fait, il y a toute la Torah orale. Elle était là, cette Torah orale. Donc, quand Akadosh Baruch Hu a écrit les deuxièmes Luchot, les deuxièmes Luchot, elles ont été écrites par Hachem, mais d'une certaine manière, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui s'est donné avec Messirut Nefesh pour obtenir d'Hachem qu'il pardonne, qu'il redonne ses luchot qu'il avait brisées, parce qu'elles n'avaient plus aucune vie, évidemment. Quelque part, on peut, quand on dit c'est ce qui est dans la plume de Moshe, c'est-à-dire Moshe n'a rien écrit, Hachem, et ça, il n'a rien écrit avec de l'encre en plus. Mais l'idée de pourquoi il y avait encore de l'encre dans l'image, on ne peut pas imaginer qu'il y avait exactement la quantité d'encre nécessaire pour écrire. On s'est trompé, on en a mis trop. Pas du tout, dit le Mesdal Lévi. Le fait qu'il y ait encore de l'encre dans la plume de Moshe, c'est une façon de dire que la Torah orale, elle n'a pas été écrite dans les deuxièmes Luchot. Donc l'encre est là. C'est une façon imagée de dire qu'on n'a pas écrit la Torah orale qui avait été écrite dans les premières. La Torah n'a pas été écrite dans les deuxièmes. Elle n'est pas écrite dans les deuxièmes. Et c'est ça l'encre qui reste dans la plume de Moshe. OK. Alors maintenant, pourquoi est-ce que cette encre-là, résiduelle, cette encre qui est en trop parce qu'on ne l'a pas utilisée pour écrire Torah Shebal Peh. Donc elle représente ce qu'on aurait, elle représente l'écriture de la Torah Shebal Peh, qui n'est pas écrite. Mais le dépositaire de la Torah Shebal Peh, au moment du don des Luchot, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a reçu, comme on a vu, toute la Torah, effectivement de façon compacte, probablement, ou d'une autre manière. Moi, je me représente les choses en compact, mais bon, il y a peut-être d'autres façons de dire. Peu importe. Il a reçu de façon compacte. Et c'est ça le visage rayonnant de Moshe Rabbeinu. Il rayonne à cause de la Torah qu'il contient, la Torah orale qu'il contient. C'est ça que dit Beit Halevi. Donc, ce visage rayonnant de Moshe Rabbeinu, qui correspond justement à la Torah orale dont il est chargé en quelque sorte, et qui va rayonner, parce qu'il va l'enseigner au peuple, c'est pour ça que ça va rayonner en fait. Bon, après, il faut commencer à discuter cette histoire du masque, quand est-ce qu'il mettait le masque, quand il l'enlevait, etc. Ce que je ne veux pas faire maintenant. Mais ça vaut la peine d'essayer de réfléchir. Après cet enseignement du Beit Halevi, comment est-ce qu'on met le masque à ce moment-là? Quand est-ce que Moshe met le masque? Quand est-ce qu'il l'enlève? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on arrive à comprendre? On va dire une dernière chose sur ce Mishkan, une dernière, pour ce soir probablement. Quand les Bnei Israël ont fauté, et qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné, il avait pardonné, vous vous souvenez, il a dit à Moshe Rabbeinu, « Salachti kidvarecha » J'ai pardonné comme tu me l'as demandé, en fait. Et on se demande si Hachem a pardonné à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où Moshe a intercédé pour obtenir le pardon d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du Mishkan pour témoigner que Hachem a pardonné? Que ce soit un témoin pour les Bnei Israël ou pour les Goïm, selon les Midrashim, peu importe. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'en témoigner? On le sait, c'est écrit. Salachti kidvarecha. Donc là, on entend qu'il y a besoin d'une double kapara, en quelque sorte, un double pardon. Pourquoi il faut un double pardon? Le pardon que Hachem a donné au Bnei Israël, comme Moshe l'a demandé, il a pardonné la faute. Pardonner la faute, ça veut dire il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas de punition sur la faute. Je ne vous punirai pas pour la faute. Le Gaon dit que c'est un sursis. Vous êtes normalement, Chayav Mita, mais vous êtes en sursis. Le pardon, c'est le pardon de la faute. Il se trouve que quand on fait une faute, quelque part, la stature du bonhomme qui a fait la faute, qui était avant la faute la stature de quelqu'un dont les pensées, les paroles, les actes ont un impact extraordinaire par le biais des mitzvot. À partir du moment où on a fait une faute, on a perdu cette stature. On n'est plus capable, puisque maintenant on s'est éloigné d'Hachem. Et donc nos actes ne vont pas plus loin que ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et cet état-là, celui qui ne peut plus faire les choses, ne peut plus faire les choses avec l'ampleur, avec la puissance avec laquelle il pouvait les faire. D'une certaine manière, c'est une forme faible de mort, si vous voulez dire, si vous voulez. Une forme faible de mort, ça se dit Touma. L'impureté, c'est une forme de mort. Celui qui est en contact avec le mort, il est un peu mort. Il est tamé. La Touma, c'est une forme de mort. Une forme faible de mort. On est empêché de faire ce qu'on est capable de faire normalement. Hachem a pardonné, il a pardonné la faute. Il a dit, je ne vous sanctionnerai pas. Mais la dégradation, la Touma, qui est là sur celui qui a fait la faute, sur ce peuple qui a fait la faute. Le fait que la faute était faite par le peuple, il faut se souvenir, c'est qui ce peuple? C'est le peuple d'Abraham. Mais Abraham, il apparaît quand? Abraham apparaît, on le voit, s'opposer à Nimrod. La tour de Babel, c'est l'échec définitif du projet divin. Il y a déjà eu un échec sanctionné par le Maboul, par le déluge. 10 générations plus tard, rebelote. De nouveau. Hachem dit, c'est terminé. Le Midrash dit, Abraham dit, moi je continue. Ça veut dire je continue. Abraham il dit, normalement, l'humanité tout entière devrait arriver à un certain stade. S'approcher, elle doit faire en sorte que ce pourquoi le monde a été créé, à savoir pour qu'Hachem soit reconnu comme le Melech dans le monde, que ceci soit réalisé. Ça n'est plus possible. Ils se sont disqualifiés, complètement disqualifiés. L'humanité en tant que telle s'est disqualifiée avec la tour de Babel. Abraham dit, je propose autre chose, en fait. Je propose la chose suivante. Moi, mon peuple, en fait, nous allons faire le job. Nous allons faire ce qu'il faut faire. Et quand nous aurons fait ce qu'il faut faire, alors, en quelque sorte, on le donne, l'humanité sera réputée l'avoir fait. Au lieu que tout le monde le fasse, il y a une délégation qui va le faire, et que quand cette délégation l'aura fait, alors on dira l'humanité l'a fait, c'est fait. Donc, c'est comme ça que nous sommes devenus, enfin, en termes, nous devenons le peuple d'Hachem. Le peuple d'Hachem, c'est-à-dire le peuple qui est en charge de faire en sorte qu'Hachem soit reconnu dans le monde comme Melech. Si maintenant ce peuple-là est défaillant, alors on se retrouve dans la situation de Nimrod. Ça n'a pas marché, Abraham. Le truc d'Abraham, il ne marche pas. Donc c'est fini, c'est raté. Donc le monde entier est fichu. Donc la faute du veau d'or, c'est non seulement une faute qui affecte tout un peuple, mais c'est une faute qui affecte le monde entier. Le monde entier est dans cet état de Touma, dans cet état d'impureté, de cet état de presque mort. Et ça n'a pas été réparé par Salartiki Dvarecha. Pour réparer ça, il faut autre chose. La chose qui montrera qu'on a retrouvé complètement la situation d'avant la faute, c'est le Mishkan. Hachem, qui réside dans le Mishkan, il montre, OK, le but de l'exercice, c'est quoi? Que je sois reconnu dans le monde. Je suis dans le monde. Au moment du Mishkan, je suis reconnu. Les chérubim, les kérouvim, à ce moment-là, ils se tournent, au moment de l'inauguration, ils sont tournés l'un vers l'autre. On est dans un matzav extraordinaire. Chazal disent, on est Adam Arishon Kodem Achet. La Zohama s'en est allée. On a retrouvé l'immortalité. Tout est extraordinaire. C'était comme ça au Sinaï. Et patatras, on retombe complètement. Donc maintenant, il faut remonter de nouveau. Et Hachem témoigne en disant « Je réside parmi eux ». Témoigne devant les Bnei Israël, il témoigne pour les Goïm. Que voilà, j'ai pardonné, et c'est un vrai pardon, c'est pas seulement un pardon de la faute, mais aussi un pardon qui enlève la Touma, en fait, qui enlève la mort, en fait. On retrouve la vie. Le clan Israël est de nouveau vivant à ce moment-là. Parce qu'Hachem réside parmi eux, il est vraiment vivant. Et c'est ça le Mishkan. C'est pour ça que le Mishkan, c'est une création du monde. Et c'est pour ça que le Mishkan, il est fabriqué comme le monde. Bon, Yada Bezalel Saref Otiot Shebaen Yivra Olam, que Bezalel savait mettre bout à bout les lettres, comme elles ont été mises bout à bout pour créer le monde. C'est bien ça? Le Salel est bien en train de créer un mini-monde. Parce qu'on avait besoin d'un nouveau monde. Parce que le monde était fichu avec le Vaudan. Donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième capara, si vous voulez. La capara qui enlève la mort, en fait, qui enlève l'échec complet, qui dit on peut repartir, ça marche, ça fonctionne. Et donc tout va très bien, tout est parfait, sauf que avec les meraglim, le sursis est tombé. Donc, Hachem a fait un chesed pour les Bnei Israël. Il avait dit au moment de Kreta Egel, il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je détruis ce peuple et j'en commence un autre avec toi. Donc, cette parole d'Hachem, je détruis le peuple, les paroles d'Hachem, elles se réalisent toujours. Mais Hachem l'a réalisé. Le chesed. C'est pas tout le peuple qui a été détruit. C'est seulement le peuple qui est sorti d'Égypte. Le peuple qui est sorti d'Égypte, adulte, et les hommes, c'est eux qui sont détruits. Oui, ils vont être détruits durant les 40 ans du désert, les 38 ans supplémentaires du désert. Ils vont disparaître. Il n'y aura que deux survivants, Caleb et Joshua, qui eux vont passer le Jourdain, etc. Donc Hachem a détruit le clan d'Israël. Il a détruit le Dordéa. Rien que ça. Donc, c'est... Il n'y a plus de Dordéa à ce moment-là. Quand ils entrent en Eretz Israël, c'est sans ce Dordéa. La fameuse génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont passé la mer, qui ont fait la guerre contre Amalek, qui ont reçu la Torah, ces gens-là, ils sont morts. Et donc, il ne nous reste qu'un récit de tout ça. On est entré en Eretz Israël avec un récit. On avait des plus jeunes qui l'avaient vécu, mais ils n'ont pas vécu adultes. Et donc, on a le récit. Et nous sommes le peuple du récit. Et nous, la sortie d'Égypte, qui est quand même cet événement absolument fondamental, puisque c'est la naissance du clan, d'accord, c'est... Et chez nous, c'est un sipour. C'est que ça perd. C'est quelque chose qu'on raconte. On y fait référence sans arrêt dans la Torah, à 49 occurrences de cette sortie d'Égypte. Mais une fois par an, on le raconte. Donc, c'est ce que on va avoir à faire bientôt, puisque on entre déjà dans le mois qui précède le mois qui contient Pessah. Ça vient vite. Voilà, on s'arrête là.